Alors, je vous disais lors de mon dernier partage que tout ce qui est précieux a un prix, ou autrement dit, que ce qui a de la valeur coûte. Et j'aimerais revenir sur cette expression, parce que je ne parle pas ici d'une valeur pécuniaire, car vous le savez tous, le message de l'Évangile est gratuit. Comme le dit Pierre au boiteux dans Actes 3, verset 6, « Nous n'avons ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » L'homme qui était placé chaque jour à l'entrée de la porte du temple faisait l'aumône comme d'habitude. Pierre et Jean arrivent, ils le voient et ils lui demandent de le regarder, de les regarder. Alors l'homme s'attendait bien à recevoir quelque chose de leur part, sûrement quelques pièces pour qu'il puisse manger. Mais ce que Pierre lui donne fut pour lui bien plus qu'une aide financière. Infirme de naissance, il a pu pour la première fois se lever, marcher et sauter. Et à la suite de cela, il a fait tout ça en louant Dieu pour ce qu'il avait fait. Oui, le message de l'Évangile est gratuit, mais vivre comme un disciple coûte. En effet, les exigences du Seigneur ne sont pas toujours simples à suivre. Et se vérifie alors cette parole, « Ce qui a de la valeur coûte ». La carte de vœux de Jean de cette année nous partageait ce mot « Que personne ne vous séduise ». Je dirais personne ou rien. Matthieu 24, verset 4 nous dit « Faites bien attention que personne ne vous égare ». Proverbe 1, verset 10 nous dit « Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner ». Et Éphésiens 5, verset 5 à 6 nous dit « Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. » Et j'aimerais parler avec vous d'une philosophie qui aujourd'hui nous séduit à bien des égards. Cette philosophie, je l'appellerai la vie facile. De nos jours, tout doit être facile. Alors on cherche à simplifier les choses au maximum, on réduit les efforts, les temps, les coûts, on prépare à notre place, on vous amène directement chez vous ce que vous achetez de votre ordinateur sans avoir à bouger. Et beaucoup de ces choses, je le conviens, sont intéressantes et elles sont bénéfiques. Mais je pense qu'elles créent indirectement chez nous un sentiment, l'impression que tout doit être facile. Tellement facile que plus rien ne doit être dur. Et si quelque chose est trop dur, alors on essaie de le faciliter, ou on en change, ou on l'élimine complètement. Et nous perdons ainsi petit à petit le goût de l'effort. Mais peut-on tout rendre facile? Je vais donner ici un exemple en réponse. Pour ne pas avoir à faire du sport, on a inventé les ceintures à vibration. Vous savez, là, ces petites ceintures qu'on met ici au niveau des abdominaux, par exemple, et ça envoie des décharges qui contractent le muscle, et ainsi ça permet d'avoir des abdos en béton, sans avoir à fournir aucun effort. Étonnamment, je n'ai jamais vu personne avec de grosses tablettes de chocolat qui ait utilisé cet outil. On crée des vélos à assistance électrique, afin de ne pas se fatiguer à pédaler. À quand le Tour de France à vélo électrique? Eh bien, jamais je l'espère. Car ce qui nous épate chez les grands sportifs, c'est leur capacité physique, leur capacité sportive hors du commun. Leur capacité à se dépasser et à faire ce que nous, nous ne sommes pas capables de faire. Mais cela a un prix, vous vous en doutez bien. Tout le monde sait que pour devenir un grand sportif, il faut du travail. Il faut fournir de l'effort au point d'y sacrifier sa vie. La vie de facilité, elle s'installe partout. Qu'en est-il dans notre vie chrétienne? Est-il possible de rendre la vie chrétienne plus facile? Le fait que la vie chrétienne soit si dure d'ailleurs, qu'elle soit si stricte, n'est-ce pas un frein pour que les personnes qui s'y intéressent soient déçues ou n'aient pas envie de s'y intéresser? Ne devrions-nous pas simplifier notre vie de foi? Alors l'idée, elle n'est sûrement pas nouvelle, et on le lit aussi dans Galates 1, versets 6 à 9. « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Mais si quelqu'un Même nous, ou un ange venu du ciel, vous annoncez un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Nous l'avons déjà dit et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Eh bien non, à ceux qui s'attendaient à ce que je leur donne la réponse, non, désolé, il n'y a pas de moyen de simplifier l'évangile. Le christianisme ne peut pas être simplifié. À l'image de tout athlète qui s'impose toute espèce d'abstinence et d'effort considérable afin de gagner le prix de sa course, tu auras toi aussi à faire de grands efforts. La vie chrétienne coûte, car c'est une vie de consécration, d'engagement, d'investissement, de dépassement de soi, de sacrifice. Elle demande parfois de se faire violence, car c'est contre notre nature charnelle que nous avons à lutter. Cette nature qui nous pousse si souvent à abandonner au vu des difficultés, quand les choses deviennent trop compliquées ou un peu trop contraignantes. Jésus dit encore aujourd'hui, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Matthieu 16, versets 24 à 25. Donner sa vie. Donner sa vie à Christ, donner sa vie pour les autres, se charger de sa croix, c'est ce que Jésus lui-même a fait en venant sur terre. Et c'est ce que le disciple est amené à faire. Acte 20, verset 24 nous dit « Mais je ne fais pas pour moi-même, aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Là même où la vie de facilité nous encourage à penser à nous avant les autres, à nous rendre la vie facile, Dieu lui nous encourage à marcher à contre-courant. Il nous enjoint à vivre pour les autres dans un esprit de service et d'humilité. Il nous encourage à ne pas faire cas de notre vie afin de donner à Dieu et au partage de l'évangile la priorité. Jacques 2, verset 5 nous dit « Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et hérités du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment ? Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. » 2 Corinthiens 8, verset 9. Dieu lui-même s'est fait pauvre de riche qu'il était pour nous enrichir. Il s'est dépouillé, il a donné sa vie pour la nôtre. Oui, nous passons à côté de vraies richesses parce que nous sommes aveuglés par le monde, par parfois la vie de facilité, aveuglés par notre « nous ». Combien de fois encore devrais-je tomber ? Quelle expérience dois-je encore vivre ? Par quelle épreuve devrais-je encore passer pour reconnaître que je suis riche dans le Seigneur ? Quand bien même, le monde me considère comme pauvre. Mon problème, et sûrement le problème de beaucoup de personnes, c'est que nous sommes oublieux. À bien des reprises, Dieu a fait de grandes choses dans ma vie, mais les préoccupations, les difficultés, l'orgueil viennent voiler à mes yeux les richesses et les compassions que Dieu a manifestées et qu'il manifeste encore. Je vais citer une méditation d'un frère que j'ai lu. Il ne s'agit pas tant de chercher la difficulté pour elle-même, ce qui serait une faiblesse psychologique, que de passer par les inévitables chemins montants qui font accéder à la réelle union à Dieu. Dans la vie spirituelle, rien ne sera jamais obtenu en prenant une voie de facilité. Le but n'est pas séparé de l'effort pour l'atteindre. Pour prendre une comparaison, en montagne, il y a plusieurs façons d'atteindre un sommet. On peut y accéder à pied en faisant l'effort de vaincre sa fatigue et les difficultés du chemin. On peut aussi y accéder par hélicoptère en se faisant déposer au sommet. Aura-t-on atteint le même but ? Ceux qui sont arrivés à pied et ceux qui ont été déposés, ceux qui montent de la terre et ceux qui descendent du ciel, vivent-ils les mêmes expériences humaines et spirituelles ? De toute façon, il n'y a pas d'hélicoptère pour se mettre en présence du Seigneur dans la prière. Il faudra toujours prendre la route, payer de sa personne, marcher dans la nuit de la foi, persévérer dans l'effort, supporter les épreuves, accepter les échecs, ne pas s'arrêter, se relever si l'on tombe, se faire aider par plus fort que soi et aider à son tour plus faible que soi. Ceux qui proposent des vies spirituelles faciles sont soit des menteurs, soit des amateurs. Ceux qui proposent des raccourcis, des dispenses, des subterfuges ou des condensés ne méritent pas qu'on leur fasse confiance. On ne devient pas chrétien en se jouant. Les étapes qui conduisent les adultes vers le baptême sont nombreuses et demandent du temps. Non pour le plaisir d'accumuler les obstacles, ce qui pourrait paraître dissuasif, mais parce que c'est dans la nature des choses. Le Seigneur Jésus lui-même n'a pas facilité la route de ses premiers disciples. Il leur a dit clairement qu'ils devraient, comme lui, prendre leur croix et le suivre. Il leur a dit qu'ils devraient être serviteurs et non servis. Il ne leur a pas caché que pour accéder à la résurrection, ils devraient passer par l'agonie, par la passion et la mort. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on devient un homme de Dieu. Il faut du temps. Il faut accepter des étapes, des progressions, des lenteurs, des moments de découragement, des échecs, des obscurités, des illusions. On ne cherche pas le difficile pour lui-même, mais il est des difficultés qui font partie intégrante de la réalité spirituelle. Donc j'aime citer d'autres personnes quand ils expriment les choses bien. Et donc du coup, c'est pour ça que je voulais vous citer aussi ce frère que j'ai lu dans une méditation. Mais je ne voudrais pas en rester là, car je ne veux pas seulement dépeindre une vie de foi qui soit marquée seulement par les difficultés. Car bien plus, nous savons que cette course est marquée par la joie, comme nous le disait Paul juste avant. L'expression utilisée au début disait « Tout ce qui a de la valeur coûte, ce qui est précieux a un prix ». Donc je voudrais parler maintenant de ce qui a de la valeur et de ce qui est précieux. J'aime rappeler un psaume de la parole de Dieu que j'aime beaucoup. C'est le psaume 34, verset 9 qui dit « Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon ». Oui, le Seigneur est bon et sa compassion envers nous est grande. Sa fidélité durera toujours. Il nous comble de ses bénédictions et de ses joies. Seulement, nous sommes davantage promptes à en vouloir à Dieu les jours où tout va mal que de le bénir les jours où tout va bien. Si je regarde à ma vie, il y a bien des déboires et des difficultés, mais ô combien il y a davantage de jours heureux. Et même s'il n'y avait pas tant de jours heureux, que devrais-je dire de ces gens qui sont persécutés, qui sont emprisonnés pour leur foi? Que devraient-ils dire? Nous savons que la joie du Seigneur dépasse cette joie terrestre et que on peut être comblé de joie au-delà de ce qui se passe dans nos circonstances, dans les circonstances de notre vie. Vivre et servir Dieu est une grande aventure. J'ai grandi, comme certains d'entre vous, au fil des colos et des camps de marche. Et même si nous savions qu'un camp de marche n'était pas de tout repos, et que nous allions traverser bien des galères, nous savions que nous surmonterions ce qui se présenterait à nous pour en garder au final que de bons souvenirs. On a des fois les jeunes qui disent « Ah, c'était dur et tout, c'était pas facile !» Mais au final, une fois que le camp est fini, ils gardent que les moments de joie. Que les bons moments. Donc, ce sont de grandes histoires à raconter qui, sur le moment, n'étaient sûrement pas réjouissantes, mais quel plaisir d'avoir su les surmonter, de s'être dépassé et d'avoir grandi. La vie de la foi est une grande aventure, mais quelle joie de la vivre avec celui qui nous permet de vivre cette vie à fond. Quelle saveur a cette vie avec le Seigneur ? Mais pour la connaître, il faut y goûter, il faut la vivre. Et j'aimerais dépeindre cette vie. Vous savez, quand on regarde une émission culinaire, des fois quand ils sont en train de cuisiner, on a presque l'odeur et tout qui nous vient au nez, on a le goût qui nous vient bientôt, au Top Chef, etc. par exemple. Et j'aimerais que par nos vies, par ma vie, les gens puissent avoir envie, que ça leur donne, qu'ils voient la saveur, qu'ils puissent goûter en partie ce que c'est que de vivre pour le Seigneur. Et je regrette que parfois dans ma vie, je ne sois pas ce chrétien que j'aimerais être suffisamment dans la joie, dans la reconnaissance avec le Seigneur, en communion avec lui, pour donner goût, que les autres puissent goûter et voir combien l'Éternel est bon. Matthieu 13, verset 44 nous dit « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. » Oui, nous savons que la vie chrétienne n'est pas facile, mais elle a de la valeur. Et ce que nous vivons avec le Seigneur, eh bien, n'est comparable à rien d'autre. Je vais vous lire 2 Corinthiens 4 qui résume bien ce que je viens de vous partager. vais lire tout le chapitre, hein, parce que il y a des chapitres comme ça qu'on ne peut pas couper, en fait. Donc, 2 Corinthiens 4. Ainsi donc, puisque par la bonté de Dieu nous avons ce ministère, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les actions honteuses qui se font en secret. Nous ne nous conduisons pas avec ruse et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, en faisant connaître clairement la vérité, nous vous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il l'est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous déclarons vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille au sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, inquiets mais non désespérés, persécutés mais non abandonnés, abattus mais non anéantis. Nous portons toujours avec nous dans notre corps l'agonie du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. En effet, nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle-même aussi révélée dans notre corps mortel. Ainsi, la mort est à l'œuvre en nous et la vie en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi que celui exprimé dans cette parole de l'Écriture, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé », nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Nous savons en effet que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi par Jésus et nous fera paraître avec vous dans sa présence. Oui, tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder la reconnaissance d'un plus grand nombre à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Et je complète avec Romains 8, verset 18, qui nous dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Mais c'est un petit peu le même thème qui est abordé du coup dans Romains 8, donc je vous encourage à le relire dans son intégralité aussi. Les difficultés, les joies feront partie de la vie d'un serviteur. Jean et Régine, qui ont servi Dieu et l'Église, tant d'années pourraient nous le confirmer. Vous avez vécu cette réalité de Romains 8, verset 14, Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Vous avez été pour moi un témoignage et des exemples. Comme Paul le disait, soyez mes imitateurs. Et ma question, c'est qui peut encore dire cela aujourd'hui? Qui estime sa vie comme un exemple suffisant à suivre? Peu de personnes le peuvent. Mais je dois bien reconnaître que j'ai eu dans ma vie de bons exemples, des modèles de consécration et de vie de service et de dévouement. Régine et Jean, vous avez été pour moi et pour beaucoup d'autres encore des parents spirituels. Tati Régine, toi la discrète, mais toujours là, pleine d'amour pour les petits bouts. Grande dessinatrice, j'ai suivi les histoires que tonton nous contait grâce aux dessins de flanelle que tu dessinais. Il y avait aussi la ligue protestrice des coccinelles, les petites papouilles dans les oreilles, toutes des petites attentions. Voilà, un peu pour définir Tati. Vous avez été... Vous avez été la tati et le tonton de tout le monde. Je dis ça parce qu'en colonie, c'était nos tatis et nos tontons et tout le monde les appelait tati et tonton. Je me rappelle même de mon beau-frère qui est venu une année en colonie, il l'appelait tonton Jean et tati Régine. Et du coup, ça me faisait toujours rire. Ça me fait penser à cette parole, vous vous êtes fait tout à tous. Tonton, toi l'homme toujours partant, le vaillant, l'aventurier, le serviteur. J'ai et nous avons ici beaucoup d'histoires et de souvenirs à vos côtés. Vous êtes des exemples et même si le temps de la retraite administrative a sonné, je ne doute que vous conserverez votre rôle de berger pour nous conduire, nous soutenir et nous aimer. C'est pourquoi je voudrais vous dire aujourd'hui un grand merci. de ma part et de la part de l'Église. Merci pour tout ce que vous avez fait, au-delà de ce que nous avons pu voir. Car même si c'est Dieu qui vous a placé là où vous êtes et qui vous a confié ce ministère, par la grâce de Dieu, vous avez couru et vous courez encore. Vous avez fait de grands sacrifices pour le partage de la vie avec le Seigneur. Il est donc normal de vous mettre avec humilité à l'honneur. Car ce n'est pas le titre et la reconnaissance que vous avez cherché, mais nous vous portons en estime comme Paul pouvait le faire de ses fidèles compagnons. Nous vous avons donc préparé un petit quelque chose pour vous remercier. Et je vais aller chercher les enfants du coup maintenant pour la suite.